quand vous l'avez appris dans les mois qui ont précédé, les lumières, c'est un phénomène assez complexe qui se développe pendant tout un siècle, voire pendant plusieurs, dans des domaines très différents. Et pour cette raison, comme pour quelques autres, il est bien difficile de dire en un mot qu'est-ce que c'est que l'esprit des lumières. C'est difficile aussi parce que les lumières, c'est-à-dire ce qui s'est passé au XVIIIe siècle en France, en Europe, consiste aussi à résumer, à synthétiser et à systématiser l'héritage des siècles précédents. En même temps, à l'époque des Lumières, non seulement tout le monde n'est pas d'accord entre eux, mais des débats très tendus, féroces parfois, jaillissent entre les différents représentants de cette pensée. Rousseau se chamaille sans cesse avec ce qu'il appelle les philosophes, lesquels l'attaquent. D'autres sont obligés de fuir de leur propre pays et d'aller ailleurs pour pouvoir s'exprimer librement. Bref, c'est une époque de débat intense. Alors, aujourd'hui, nous, on essaye de résumer cela en quelques mots, et c'est bien entendu un choix difficile à faire dans cet héritage. C'est pourquoi, en fait, quand aujourd'hui on parle des Lumières, on évoque plutôt une attitude, une pensée atemporelle, en quelque sorte, plutôt que de vouloir reconstituer dans toute sa complexité ce que vous avez peut-être fait dans les leçons d'histoire ou de littérature ou de philosophie. Mais là, on va essayer de parler en termes très généraux. Et pour ma part, et dans la petite demi-heure que je me réserve, je vais d'abord évoquer le projet, en quoi il consiste. Et ensuite, je vais m'arrêter un petit peu sur deux questions plus particulières. L'une qui a rapport à la place de la religion et de la laïcité, et l'autre à la place de l'universalité et de la reconnaissance des particularités locales. Alors, d'abord, pour le projet général, comment trouver le nœud, le point de départ, d'où tout pourrait être en quelque sorte déduit. Eh bien, je suggère qu'on l'identifie avec ce qu'on désigne par ce mot un petit peu savant, mais quand même compréhensible, qui est celui de l'autonomie. L'autonomie, cela veut dire des lois que l'on se donne soi-même. Mais il faut entendre les lois de manière très générale. Car il s'agit de se donner des règles de vie et, ce qui est essentiel, de se gouverner soi-même, de reconnaître que les hommes, les êtres humains, n'ont pas besoin de ce qu'on leur impose d'ailleurs des règles auxquelles ils doivent se soumettre, mais qu'ils aient le droit de décider par eux-mêmes de leur manière de vivre. Alors, cette autonomie va maintenant se décliner dans toutes sortes de domaines. Celui qui est peut-être le plus facile à saisir immédiatement, c'est le domaine de la connaissance. Il ne faut pas que la connaissance soit soumise à une tutelle morale, religieuse, traditionnelle, quelle qu'elle soit, qui nous dise d'avance quels sont les résultats auxquels on doit aboutir. Il faut que la connaissance puisse se propager, se développer librement en ne se servant que des moyens, des instruments de la raison et de l'expérience. Observation du monde, expérimentation sur le monde, réflexion, mais non pas décision. Il faudrait que ce qu'on découvre conduise au bien. Donc, exemple célèbre, si vous voulez, bien qu'il appartiennent à un siècle antérieur, on n'a pas le droit de ne pas chercher l'origine du monde, l'origine de l'être humain, la place de la Terre dans le cosmos, etc., etc. Tout cela, on ne va plus le recevoir de la tradition, de l'autorité, on va essayer de le chercher soi-même par des moyens accessible à tous les des êtres humains. Mais ce n'est pas, bien entendu, le seul domaine. Il y a aussi celui de la vie individuelle, de la vie de l'individu. L'individu, c'est un combat qui dure à l'époque déjà depuis plusieurs siècles, l'individu a ce qu'on appelle une liberté de conscience. Autrement dit, il peut choisir de se soumettre à la religion majoritaire dans son pays ou d'adopter une religion différente. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Cette liberté, donc, d'une chose bien limitée qui est la religion, va s'élargir progressivement et on aura aussi le droit à une liberté d'opinion politique ou, autrement, à une liberté d'organiser sa vie privée comme on l'entend. C'est ce qu'on va découvrir, cet intérêt pour la vie de l'individu, on va le découvrir dans toutes les formes de représentation et avant tout dans la littérature. La littérature cessera d'être une simple variation sur des thèmes qui nous ont été transmis par la tradition, même si ces thèmes, à travers ces thèmes, bien sûr, c'est toujours l'être humain auquel on s'intéresse, mais on ajoutera à cela un intérêt pour les individus vivants, contemporains, tels que nous-mêmes, dont on va raconter l'histoire. Manon Lescaut, Tom Jones, des êtres ordinaires qui nous intéressent simplement parce qu'ils sont comme tout le monde. De même, explosion, si on peut dire, de l'autobiographie. L'autobiographie, c'est-à-dire ce genre à travers lequel la vie des individus devient un objet intéressant en lui-même. N'importe quel individu, non pas seulement les plus célèbres, célébrés et glorieux, mais tout un chacun mérite d'être connu, parce qu'il est justement comme tout le monde. Pareil pour la peinture, qui va avec les peintres du genre, ceux qui racontent la vie quotidienne des hommes, et non plus les hauts faits et gestes des héros ou des histoires tirées de la mythologie ou de la religion. Même exigence en politique. En politique, cela veut dire quoi? On ne va plus admettre que les rois soient chargés de détenir le pouvoir d'un droit divin, que les dieux auraient transmis par plusieurs intermédiaires aux rois qui sont là. Non, on va dire, le pouvoir est détenu par la totalité des habitants d'un pays, par le peuple, et c'est ce peuple qui est souverain, auquel on ne peut imposer rien qu'il ne veuille pas, qui va décider de sa destinée. Du coup, cela va conduire progressivement à l'émancipation des couches soumises de la population et à terme à la révolution. Cette autonomie du pouvoir politique ne va pas en rester seulement générale, il y aura aussi une autonomie de l'individu par rapport à ce pouvoir, même quand il est légitime, c'est-à-dire celui du peuple. Le peuple décide seul des destinées du pays, mais l'individu, on ne peut pas lui imposer des choses contre lesquelles il s'élève si simplement le peuple a décidé de cela. On ne peut pas, par exemple, je ne sais pas moi, le peuple ne peut pas décider que on va tuer tous les malades ou tous les vieux simplement parce que ça serait plus avantageux au reste de la communauté. Il y a des principes généraux auxquels on se soumet et qui protègent la liberté de l'individu. De même, les différentes institutions d'un État doivent rester indépendantes de pouvoirs religieux ou même du pouvoir politique. Par exemple, il ne faut pas que, mettons, un parti est au pouvoir, parler en termes un peu anachroniques, puisque à l'époque il n'y a pas de parti, mais mettons qu'un parti est au pouvoir, il ne faut pas que ce parti puisse se servir de l'appareil d'État pour imposer à tous les fonctionnaires de voter pour lui. Il ne faut pas que la justice soit soumise au pouvoir politique. Il faut qu'elle juge au nom des principes de la justice et non pas simplement servir les puissants. Il faut que l'école ne serve pas à endoctriner les élèves dans le sens des convictions des gens qui détiennent le pouvoir en ce moment précis. Il faut qu'elle soit au service de la communauté, qu'elle soit à son tour autonome. De même pour l'économie, on n'a pas le droit de se servir du levier économique pour obtenir plus de domination encore de tout un chacun. Alors, toutes ces exigences, tout cela, cette autonomie, implique donc une sorte de libération de la volonté, que ce soit de l'individu ou de la communauté. Est-ce pour autant qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Est-ce que la volonté ne connaît aucune limite? Eh bien, non. Elle se limite néanmoins, et ces limites lui viennent de deux principes généraux, qui sont d'abord le fait que le but ultime de nos actions doit être le bien-être de l'humanité et des êtres humains pris isolément, l'un après l'autre, et non pas un salut dans l'au-delà, non pas un avenir radieux qui concernerait nos petits-enfants, mais non pas l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis, d'autre part, l'exigence d'universalité. D'universalité, c'est-à-dire une reconnaissance de ce que tous nous appartenons à une même espèce, et que de ce fait même, du fait de cette appartenance, nous avons certains droits, ce qu'on appelle les droits humains. Et par là même, nous pouvons être protégés contre l'action qui s'exerce contre nous, et nous pouvons combattre les pouvoirs arbitraires. Alors voilà, vraiment en très peu de mots, disons, le projet général des Lumières, que maintenant je voudrais évoquer plus concrètement dans deux domaines particuliers. D'abord donc celui de la religion. Qu'est-ce que la religion du point de vue des penseurs de lumière? Eh bien, les penseurs de lumière, et je dirais l'esprit de lumière, ne prônent pas l'athéisme. Ils ne refusent pas l'existence de Dieu ou le fait que les individus soient croyants. Ce qu'ils contestent, c'est une certaine place de la religion dans la vie de la société. Ils refusent que l'ordre de la société soit dicté par la religion. Il faut donc qu'il y ait, je disais à l'instant, une liberté de conscience. Il n'y a pas de péché d'apostasie. L'individu peut choisir librement de renoncer à sa religion et d'être un croyant ou de changer de religion. Mais aussi et surtout, la religion n'a plus un rôle politique à jouer. Elle devient l'affaire de chacun. Chacun décide en son âme et conscience s'il veut croire ou ne pas croire. La religion en tant que lien entre individus, la religion en tant que rituel scandant le rythme d'une existence humaine, la religion en tant que foi en certains principes de comportement, tout cela n'est pas contesté par l'esprit de lumière. Il est en revanche exigé que la religion s'en tienne à l'intérieur de certaines limites. Au contraire, c'est pendant ce siècle même que commence un intérêt suivi pour toutes les religions du monde. C'est au XVIIIe siècle que commencent à être écrites les grandes histoires, les grands tableaux dans lesquels on raconte la religion des Chinois, celle des Indiens, celle des venus de l'Islam, celle des Juifs, bref, toutes les religions du monde deviennent un objet de connaissance et d'intérêt pour les hommes de lumière. Mais ce qu'ils demandent, c'est un esprit de tolérance. Le fait que les autres n'aient pas la même religion ne doit pas devenir une raison de les persécuter. Ce qui caractérise la pensée du XVIIIe siècle, c'est le déisme, comme on l'appelle, c'est la religion naturelle et non pas l'athéisme, bien que l'athéisme soit présent aussi. Mais il est présent comme une attitude parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que maintenant l'esprit de lumière vu du côté de la religion? Eh bien, vu du côté de la religion au XVIIIe siècle, l'esprit de lumière est perçu comme le grand ennemi, bien sûr. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment, c'est la religion qui définit la structure de la société, qui la légitime et garantit. Et c'est donc précisément de cette place qu'on veut la chasser, en proclamant l'autonomie de l'individu comme du groupe humain. C'est donc un combat frontal, et c'est pour cette raison que des persécutions seront engagées. Alors évidemment, aujourd'hui, les choses ne sont pas les mêmes qu'il y a 250 ans, et pourtant, la tradition, les différentes traditions religieuses continuent de voir dans les Lumières leur ennemi principal. Je ne parlerai ici que du christianisme, pour ne pas compliquer les choses. Et on peut voir que dans la tradition chrétienne, telle qu'elle s'exprime par exemple dans les discours des papes successifs, ou dans les propos de tel ou tel écrivain ou penseur qui réfléchit au problème de la religion, c'est de nouveau ce qu'on reproche à l'esprit des Lumières, c'est justement cette autonomie, ce droit des êtres humains de décider d'eux-mêmes de leur destinée et donc aussi de leur valeur. De dire le bien et le mal, c'est nous qui décidons comment le définir. Cela, disent les représentants de la religion, est très dangereux parce que si les hommes se mettent à choisir librement la définition du bien et du mal, eh bien demain, ils peuvent déclarer qu'il faut éliminer une partie de la population pour que le reste vive bien. Cette partie de la population, on va l'appeler les koulaks ou les bourgeois, et dans l'histoire du communisme soviétique, on va chercher à les éliminer de la surface de la Terre. Ou on peut les appeler les juifs, et on peut, dans le cas des nazis, vouloir libérer la surface de la Terre de leur présence. Je voulais vous lire une phrase de Jean-Paul II, le pape précédent, qui allait dans ce sens. Il disait, il écrivait, « L'homme était resté seul, seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation, seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Eh bien, dans ce cas, si l'homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, il peut aussi disposer qu'un groupe d'hommes soit anéanti. »
Je ne vais pas traiter de tout, bon, visiblement vous êtes occupé par laïcité, liberté d'expression et liberté d'expression, je suppose, d'expression de votre identité. Écoutez, la réponse que je ferai, c'est que effectivement, un des grands problèmes, c'est comment dans une société démocratique, puisque ce n'est pas l'idéal et c'est des lumières, comment est-ce que dans une société démocratique, les gens peuvent affirmer leur identité tout en participant à la communauté politique. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser de côté comme différence et qu'est-ce qu'ils doivent, garder comme identité? C'est une question que se pose Rousseau, par exemple, puisque quand il demande dans le contrat social que les hommes aient une volonté, se fondent dans la volonté générale, il faut qu'ils abandonnent leur volonté particulière. C'est vrai qu'ils n'étaient pas opposés aux partis politiques, a fortiori, je pense qu'ils auraient été opposés aux sectes, aux religions, etc., sauf la religion de l'État, mais il faut que les gens viennent avec leur identité de citoyen et pas le reste de leur identité. Donc c'est un grand débat contemporain, je dirais, et c'est le débat, en gros, du communautarisme. Alors, sur moi, concrètement, je pense que nous devons réfléchir et négocier, je dis bien, dans les sociétés démocratiques, bien, cet équilibre entre les traits d'identité que l'on laisse de côté, qu'on met en sourdine, ceux qu'on abandonne et ceux que l'on garde en tant que citoyen. Par exemple, sur la question du voile, par exemple, je vais être très clair, je ne suis pas du tout certain d'être d'accord avec beaucoup de gens ici, mais sur la question des voiles, il y a très longtemps que je pense que, étant donné que profondément, je suis tolérant de manière religieuse, chacun a le droit d'affirmer sa conviction religieuse, y compris de manière vestimentaire, a fortiori de manière vestimentaire. Il a le droit de revendiquer, dans le temps, d'ailleurs ça existe toujours le cas, il y a des filles qui portent le voile, mais il y a des religieuses qui étaient en costume religieux, les prêtres étaient dans leur costume de prêtre, c'était une manière d'affirmer son identité. Et je rappelle qu'au XIXe siècle, encore, il y a même encore pas longtemps, il était interdit aux femmes de se travestir en homme parce qu'il fallait qu'elles indiquent leur identité. Donc personnellement, que quelqu'un affirme son identité religieuse, son austérité de mœurs, sa réserve, etc., ça ne me gêne pas et j'étais opposé à la loi sur le voile. En revanche, si vous voulez, là où je commence à être opposé, c'est lorsque c'est un instrument de prosélytisme. Et alors là, il y a quelque chose sur lequel je suis fondamentalement opposé, par exemple, c'est le port de la burqa. Pourquoi? Parce que le port de la burqa, c'est le masquage du visage. Or, vous ne pouvez pas dire « j'affirme mon identité » en cachant votre identité. La société démocratique, c'est la société où les gens se regardent en face à face. Se regardent en face à face. Bon, qu'ils aient un bonnet jamaïcain, un voile ou un chignon, veut dire qu'on voit leur identité quand même. C'est-à-dire, et il y a leur conviction religieuse ou non religieuse qui s'affiche ainsi. Mais par exemple, la dissimulation du visage complète me semble absolument incompatible avec la vie démocratique. Alors je comprends très bien qu'à ce moment-là, on dit, moi je veux vivre dans une théocratie. Mais je dirais qu'à ce moment-là, moi ça me pose un problème, et je ne veux pas vivre dans une théocratie. Ce ne correspond pas à l'esprit des Lumières qui est le mien. Et d'autre part, on veut dire, je ne considère pas que ce soit à moi d'abord condamné parce que les gens veulent faire une théocratie. Il existe quelques théocraties dans le monde, les gens peuvent y aller, s'ils ont vraiment envie de vivre dans une théocratie. Mais vous voyez, concrètement, cette question de l'identité, comment je la pose? Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'on peut garder? Et qu'est-ce qu'on doit abandonner pour entrer dans les champs démocratiques? Donc encore une fois, moi ça ne me gêne pas du tout de voir les filles portant le foulard. En revanche, je n'accepte pas les sociétés démocratiques le port de la burqa, c'est-à-dire la dissimulation pure et simple du visage, parce que ça fait partie de notre identité. Bon, sur ce qui est de la sécurité, je m'en tiendrai là, je ne vais pas répondre à tout, mais sur ce qui est de la sécurité et des menaces sur la liberté au nom de la sécurité, ce qu'il faut bien voir, c'est que les sociétés démocratiques sont des sociétés qui, justement, sont très vulnérables aux menaces de type de menaces terroristes, puisque justement on y a le droit de circulation, on y a le droit d'expression, on y a le droit de faire ses affaires privées. Donc effectivement, c'est des sociétés qui sont vulnérables au terrorisme. Et donc un des grands défis pour les sociétés démocratiques, c'est comment à la fois maintenir un bon niveau de sécurité tout en respectant la liberté. Ce qui est évident, c'est que la situation américaine, ça je tiens à dire, est très différente de la situation européenne, parce que les Américains, c'est une démocratie qui est terre à part. C'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui est restée fondamentalement plus religieuse, qui n'est pas laïque, fondamentalement beaucoup plus religieuse que les nôtres, que d'autre part, géographiquement, c'est un pays qui est isolé, donc ils ont vécu les attaques terroristes littéralement contre la guerre. Nous, ça nous paraît absurde de parler de guerre contre le terrorisme, mais les Américains ont vécu ça comme la guerre, et donc, d'une certaine manière, ils se considèrent en état de guerre. Or, on sait très bien que dans les états de guerre, ça s'est passé suffisamment en Europe pour qu'on le sache, dans les états de guerre, on suspend les libertés individuelles. Et je ne justifie pas du tout, hein. Je dis simplement que à partir du moment où les États-Unis voient leur situation de situation de guerre, effectivement, ils se donnent beau jeu, enfin leurs autorités politiques donnent beau jeu en s'attaquant aux libertés. Je pense que c'est totalement excessif et que le désastre que ça aura entraîné, notamment pour les États-Unis en termes d'image et de position dans le monde, sera considérable et ça mettra des années à être réparé. Mais on peut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Nous avons la tâche plus difficile, je dirais, de mélanger, de trouver un équilibre entre sécurité et liberté. Et donc, on se débrouille comme on peut. Hein, quelquefois, en portant atteinte à la liberté, c'est vrai, il y a des écoutes, il y a des gardes à vue, il y a des lois antiterroristes. Et quelquefois, je dirais, en portant atteinte à la sécurité aussi. Hein, vous allez pouvoir voir, on prend beaucoup, je donne un exemple, on prend énormément de précautions dans le domaine du voyage aérien. Là, il y a une restriction de liberté. Donc, essayez maintenant de prendre l'avion et d'occuper de dentifrice, vous ne pouvez pas. Hein. Mais en même temps, quand on regarde le transport ferroviaire, on prend quasiment aucune précaution de sécurité.
Ça me laisse quand même une petite dizaine de questions à traiter. Mais on ne peut pas répondre à tout. Effectivement, je vais essayer là aussi de les regrouper un peu, mais très rapidement. Je voulais juste commencer en disant que il est effectivement inconcevable pour nous aujourd'hui que quelqu'un soit brûlé pour un blasphème. Donc on est scandalisé par des réactions de ce type qui se manifeste parce qu'il est dans l'esprit des Lumières, et ça c'est vrai, que d'avoir le droit de critiquer librement toute institution et de ne pas être lynché ou envoyé en prison pour cette raison. Mais je voudrais ajouter aussitôt que ce n'est pas la seule règle de vie en société, que la liberté d'expression, il y en a plusieurs autres. Il y a notamment l'idée de paix, donc de ne pas envenimer les conflits. Il y a aussi l'idée d'égalité, donc de ne pas faire subir à certaines minorités, à certaines parties de la population, de leur faire subir l'imposition d'une image qui est perçue comme discriminatoire. Le droit au blasphème ne doit pas devenir un devoir de blasphème. On n'est pas du tout obligé tous de s'unir dans le blasphème simplement parce que le blasphème ne doit plus être puni. Il faut bien voir la différence entre ces deux degrés d'exigence. La toute dernière question parlait de l'impossibilité d'une connaissance totale et donc de la fragilité humaine, parce que on ne peut pas connaître Dieu de cette manière-là. Mais je dirais surtout d'abord que la science et la connaissance doit toujours, et le fait toujours, reconnaître ses propres limites. La science sait parfaitement qu'elle ne peut expliquer tout. Si elle se met à expliquer tout, si elle prétend pouvoir expliquer tout, elle sera devenue quoi ? Une religion. C'est uniquement la pensée religieuse qui prétend posséder une clé pouvant ouvrir toutes les serrures. La science, elle, se sait incomplète, imparfaite, critiquable, partiale, répondant seulement à une petite partie de ce qui est connaissable. laïcité, liberté d'expression, je crois que Yves Michaud en a déjà suffisamment dit, non seulement qu'il n'y a aucune raison que la laïcité empêche la liberté d'expression, mais je dirais que la laïcité est la condition pour qu'il y ait une liberté d'expression quelconque. Parce que le contraire de la laïcité, c'est quoi? C'est une opinion imposée à tous par la force. C'est un pays dans lequel vous n'avez pas le droit de ne pas croire à la religion officielle. La laïcité, c'est un espace qui nous permet d'être en désaccord. Et c'est essentiel que d'avoir le droit de penser autrement, d'être en désaccord. Laïcité est tradition, la laïcité n'est nullement une exigence que les êtres humains soient dépourvus d'identité culturelle, d'identité traditionnelle. C'est une règle du débat dans l'espace public. Mais les êtres humains viennent dans cet espace public tels qu'ils sont, et non pas réduits à des individus abstraits qui ne ressemblent à rien, bien sûr. Comment réduire l'esclavage? Oui, l'esclavage était combattu au moins en théorie par les gens des Lumières et ensuite plus tard au XIXe siècle par leurs disciples. Est-ce que l'exploitation économique d'aujourd'hui est l'équivalent de l'esclavage? Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à employer un mot pour un autre. C'est un peu comme le mot totalitarisme ou le mot fascisme d'ailleurs, qu'on emploie un peu à toutes les sauces simplement pour stigmatiser son adversaire. Mais l'esclavage, c'est vraiment une chose bien précise et bien grave dans laquelle l'individu ne possède aucun droit, il est la propriété de quelqu'un d'autre, etc. Il souffre, mais d'une toute autre manière, dans l'exploitation telle qu'elle peut être réalisée à l'usine. L'usine n'est pas un camp de concentration, l'ouvrier n'est pas un esclave, même s'il a sa propre souffrance et une injustice dont il peut être frappé. Enfin, dernière question à laquelle je dis un mot, mais ce n'est pas une réponse, c'est comment est-ce que l'esprit de lumière mérite quelque attention alors même qu'au XXe siècle il y a eu ces guerres mondiales, génocides, massacres de toutes sortes? Eh bien, je dirais que l'esprit de lumière n'est pas quelque chose qui peut vaincre une fois pour toutes. Et le vieux Kant, qui était souvent assez dogmatique, avait quand même eu un mot modeste à cet égard. Il avait dit « Notre époque n'est pas une époque de lumière, mais seulement une époque en voie d'éclairement. » Il faut se souvenir que c'est un combat de tous les jours qui ne s'arrête jamais, parce que c'est en nous aussi que réside le désir d'imposer sa volonté aux autres, de les dominer et de se comporter d'une manière qui est néfaste à cet épanouissement commun. Donc c'est à vous, et ce serait pour moi le mot de conclusion, c'est à vous de porter plus loin cet esprit de lumière.